Bonjour. Guten Tag. Oh. Guten Abend. Voilà. Je vois, nous sommes proches de mon pays d'origine. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'être avec vous ce week-end. Et je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes vraiment, merci pour votre accueil. Et que nous vivons un temps spécial avec le Seigneur. Et que j'ai dû penser à une parole de ma belle-mère qui est partie il y a une année, plus d'une année, et qui, après le premier confinement, bon, elle aussi, elle était dans un EHPAD, et puis c'était difficile, elle avait plus de 90 ans, et puis... lorsque le deuxième confinement avait commencé, on était au téléphone avec elle. C'était une femme, ma belle-mère, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était croyante, elle était en Christ. Elle disait juste comme ça, il me dit, on dirait que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. C'est pour ça qu'il a permis un deuxième confinement. Pourquoi ? C'est pour ça que la pandémie a perdu. A duré plus de temps. Et maintenant, il y a encore une autre situation qui arrive. Et ça m'a fait rappeler, nous sommes toujours, l'Église, Dieu est en train de nous préparer pour les choses qui arrivent. Et il se sert de ces situations pour nous préparer, pour nous parler, pour qu'on entre dans les choses que le Seigneur veut qu'on fasse et qu'on change aussi. L'Église a besoin de changer. Et autant que serviteur de Dieu, parfois on a la foi, on prie, on a la foi pour, lorsque tu m'as donné un message et je vais prêcher aujourd'hui, et on a l'espoir et la foi qu'avec un seul message, toute l'Église va changer. Oh. Maintenant, après 30 ans dans le ministère, je constate que l'homme est trop têtu. Un message ne suffit jamais. Il faut plusieurs messages. Il faut qu'on entre dans un processus pour que Dieu nous transforme. C'est pas avec. Je crois au miracle où Dieu peut faire des choses d'une manière instantanée, spontanée. Nous avons vécu ça aussi, mais normalement, pour qu'un homme soit transformé, c'est un processus, c'est un cheminement. Et nous, personnellement, nous sommes dans ce cheminement, et l'Église Josué est dans ce cheminement. Même le défi avec la maison, le bâtiment, ça fait partie de cette épreuve que Dieu utilise pour nous façonner, pour nous préparer pour les choses à venir. Alléluia. Je ne sais pas quel titre a donné à mon message. Je vais dire la preuve de l'amour, la preuve de ton amour. La preuve de ton amour. Et je vous dis, c'est à la fin seulement que je vais parler de la preuve de ton amour. Donc je vais... C'est la question, quelle est la preuve de ton amour pour le Seigneur? J'aimerais juste dire, Dieu, il est à l'œuvre, il fait des miracles, il n'a pas fini de faire des miracles, il est au contrôle, il poursuit son plan du salut. Son plan pour ta vie, son plan pour l'Église, son plan pour l'Alsace, son plan pour la France, son plan pour l'Ukraine, il poursuit son plan. Pas toujours comme nous on pense, pas toujours comme nous on a prié pour que ça se passe, parce que parfois nous aussi on a l'habitude de dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Mais je crois que nous avons le droit de dire à Dieu tout ce que nous avons à cœur, parce qu'il veut qu'on soit ensemble avec lui. mais nous nous soumettons à lui. J'aimerais juste revenir sur quelques histoires de la Bible. Vous savez que j'aime raconter des histoires de l'Afrique, maintenant aussi de la France. Bon, je commence par les histoires de la Bible. En Matthieu 14, nous voyons Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Matthieu 14, verset 25. Là, c'est écrit, donc Matthieu 14, verset 25 à 29. La barque, non, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et à ma grande surprise, dans cette situation, il faut imaginer un peu cette situation, Jésus marche sur l'eau, les yeux des disciples sont presque en train de tomber. Peut-être même les lunettes, on ne sait pas. Mais, et en plus, parce qu'il y avait une tradition qui disait, oui, si tu vois quelque chose comme ça la nuit, sur la mer, il y avait comme une superstition, ça, c'est la fin de tes jours. Donc, c'est un fantôme, et il va te prendre, et c'est la fin de ta vie. Donc, ils ont crié, maintenant Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Et dans cette situation, il y a un homme qui dit, mais ce que Jésus fait, moi aussi je veux le faire. Et il dit, mais il comprend quelque chose. Il dit, Pierre, il sait qu'il ne peut pas le faire automatiquement, humainement. Donc il dit, Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus a fait un miracle. Et Pierre a vécu un miracle. Et ce miracle s'est passé parce que Pierre, il a réclamé une parole de la part du Seigneur. Il a attendu jusqu'à ce qu'il ait reçu cette parole de la part du Seigneur. Et sur cette parole, il a mis sa confiance et il a marché sur cette parole. Et là, il a vécu le miracle. Dieu veut faire des miracles dans notre vie. Il veut continuer à faire des miracles. Beaucoup dépend de sa parole, dans ta situation, sa parole dans ta situation personnelle. On dit la parole réma, la parole personnalisée, la parole actuelle. Tout ça, c'est la parole logos. Elle est très utile, elle est importante. Mais parfois, le Seigneur, tu ne peux pas prendre cette parole et aller au bord du Rhin. Il dit, Seigneur, tu as dit, viens. Donc, moi aussi, je viens. Non, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas marcher sur le Rhin avec une parole logos. Il te faut une parole réma pour toi personnellement. Je ne dis pas que c'est impossible de marcher sur le Rhin. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais Pierre, il savait, il a besoin d'une parole. Et dès qu'il a eu la parole, il a bougé. Juste quelques versets avant, nous lisons en Matthieu 14, nous lisons de la première multiplication des pains. Et là, nous lisons Matthieu 14, versets 15 à 18. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. On eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Verset 18, et Jésus dit, apportez-les-moi ici. Et avec le peu qu'ils ont apporté à Jésus, Jésus a fait un grand miracle. C'est intéressant, je vous encourage, parce que nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de, l'Ukraine a besoin de miracles. L'Église a besoin d'un miracle pour le bâtiment. Nous, personnellement, on a besoin d'un miracle pour les finances, pour des problèmes de santé. Il y a différents défis. Ça ne manque pas. Et je suis fasciné d'observer les miracles de Jésus. Ils sont très différents. Et c'est bon de décortiquer comment le miracle est arrivé. Comment Jésus l'a fait. Ici, Jésus a fait un miracle, mais il n'a pas fait... La nourriture n'est pas tombée du ciel. Ici, il a dit, qu'est-ce que vous avez? On peut voir ça dans un texte parallèle, dans un autre évangile. Qu'est-ce que vous avez? Et ils ont vérifié, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Et avec le peu qu'ils ont apporté à Jésus. Donc, Jésus a inclus les gens pour faire son miracle. Et ça, Jésus, il aime ça. Notre Dieu, depuis la Genèse, depuis la création, il aime collaborer avec l'homme. C'est pour ça qu'il t'a créé, qu'il m'a créé. Il veut être ensemble et il veut faire des grandes choses sur cette terre. Et pour certaines choses, Dieu même les retarde parce que nous, on ne bouge pas. Dieu nous attend. Il y a certaines choses, il faut qu'on se lève pour chasser les démons. C'est qui doit faire ça? Nous. Oui. Mais parfois, on entend des prières, « Seigneur, enlève le démon, enlève le problème, etc. » Non, c'est à nous de chasser les démons. Il y a certaines choses que le Seigneur nous a données et il veut qu'on collabore. C'est lui qui agit, mais il a choisi. Parfois, j'ai dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu aurais pu faire autrement et ce sera beaucoup plus efficace. » Pour attendre les Allemands, attendre les Français. Non, mais ils sont trop têtus. Ils sont trop... Non, mais... Mais c'est le choix du Seigneur. Parce qu'il nous aime et il a choisi... C'est pour ça qu'il nous a créés. Il veut qu'on soit ensemble avec lui. Il veut faire des grandes choses ensemble avec lui. Mais c'est clair. Lui, en étant le patron, le chef. Et nous... en étant soumis à lui, mais unis à lui. Dieu, comment il nous fait participer? Donc, prochaine histoire. Passons dans l'Ancien Testament, à l'histoire de Noé. Et je parle de cette histoire... à cause aussi de ce défi de la maison du tisserand. Donc, parce que lorsque j'ai prié, j'ai vraiment senti que le Seigneur vous encourage à persévérer pour ce défi. C'est un défi et à la fin, ça sera clair que toute la gloire revienne au Seigneur et pas à un homme. Mais n'abandonnez pas. On est toujours dans un combat, mais c'est comme si, je ressens aussi, c'est comme il y a, lorsqu'on commence à nous, bon, ce qu'on a déjà dit, nous devons vraiment aussi aller dans la, il ne faut pas continuer seulement avec des prières gentilles. Il y a des prières de guerre. Il y a un combat spirituel. Lorsqu'on parle avec, lorsqu'on traite avec des puissances des ténèbres, même au niveau de l'Ukraine, avec les puissances de la guerre, les puissances de la méchanceté, de la mort, là, on ne peut pas faire des prières gentilles. Ça ne suffit pas. Ça ne bouge pas. avant de lire, j'aimerais juste raconter une histoire. On était en Guinée-Conakry, et dans les années 90, et après, on est parti au Sénégal, mais on visitait nos frères en Guinée qui continuaient à implanter des églises, à prêcher la bonne nouvelle. Et il y avait une menace du pays parce qu'il y avait, une guerre civile au Libéria et après même en Sierra Leone. Il y avait des rebelles et il y avait des tueries atroces. Et cette rébellion, parce que c'était une ethnie qui était aussi sur le côté de qui était impliqué dans cette rébellion, qui était aussi présent sur le sol guinéen. Et cette rébellion a failli contaminer la Guinée. Et les quelques chrétiens, la Guinée était à plus de 90% musulmans, mais les quelques chrétiens qui étaient là, ils ont décrété un jeûne de 40 jours. Ils ont prié, et lorsque nos frères africains, lorsqu'ils prient, vraiment parfois, tu as besoin de boucher les oreilles, parce que sinon, chacun a sa culture et sa mentalité, mais j'ai aimé, ça. Avec le djembé, on louait, on priait, on louait, on priait, et pendant parfois toute la nuit. Lorsque les rebelles ont attaqué les villages en Guinée, lorsqu'ils ont traversé la frontière pour attaquer les villages, ils n'ont pas pu pénétrer profondément dans le pays. Ils ont dit, on ne comprend pas, mais ici, il y a un Dieu, il a plus de puissance que nous, on connaît. Et il faut savoir que là, en Afrique, les soldats, les militaires, ils font des choses... de la sorcellerie pour se protéger. Il y a des cris gris anti-balles, il y a des cris gris anti-couteaux. Donc, et ils payent cher pour ça. Donc, ils font des pactes avec les démons, avec des sacrifices, parfois même des sacrifices humains. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et je vous dis, dans le monde des ténèbres, ça fonctionne. Et c'est des telles personnes qui ont traversé la frontière, ils ont combattu, ils sont entrés dans les villages, et ils ont vu, mais on n'arrive pas à pénétrer. Il y a une puissance ici qu'on ne connaît pas, une puissance qui est supérieure à toutes les puissances que nous, on connaît. Ils ont demandé, c'est quelle puissance ? Jusqu'au point que quelques semaines après, on a entendu le président musulman, à l'époque, bon, il est mort maintenant, Lansana Conté, annoncer à la radio, il dit, nous avons la paix dans notre pays grâce aux prières des chrétiens. Tout le peuple a reconnu cela. Et je veux dire ça comme encouragement. Même si nous sommes peu nombreux, mais lorsque nous nous levons et nous prions, et je sais qu'en Ukraine, il y a beaucoup de chrétiens qui prient, et parmi les réfugiés aussi, il y a beaucoup de chrétiens, et que lorsque nous nous unissons, Dieu va agir. Parce qu'il y a cette collaboration entre lui et nous. Donc, venons à Genèse 6, verset 22. C'est tout simplement écrit, « C'est ce que fit Noé. » Point. « Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. » Imaginez-vous, Noé reçoit l'ordre de construire une arche sur la terre. Donc, je ne sais pas, à Gébilia peut-être. Imagine. Mais à l'époque, il fallait même... c'est lui qui devait couper les arbres et faire... Parce qu'il n'y avait, pas encore un bricoté pot et etc. Donc, il n'y avait pas tous ces marchés. Donc, il fallait chaque planche, il devait la faire lui-même. Je ne sais pas combien de mois il a travaillé et combien de mois, chaque fois qu'on dit travaille avec la scie, avec les pointes, il dit, mais vraiment, est-ce que je suis encore... Est-ce que c'est quand même un peu drôle? Il n'y a pas d'eau ici, je dois construire un... Comment même faire? C'est impossible. Et les gens passaient, ils se moquaient de lui. Pendant des semaines, pendant des mois. Donc, il s'est engagé dans quelque chose, vraiment, humainement parlé, vraiment bête. Mais il a décidé de croire et obéir à la parole de Dieu. Et Dieu a fait le miracle à travers ça. À la fin, et je vous dis au nom de Jésus, même avec votre maison du tisserand, à la fin, vous allez voir la gloire de Dieu. Dieu sera fidèle à sa parole. Ça ne se passe pas toujours, et ça ne se passe pas toujours juste le lendemain, ou bien pas toujours tout de suite. Parce que même pendant ce cheminement, le Seigneur permet ce cheminement et ces épreuves, parce qu'en même temps, il veut nous transformer, il veut nous préparer davantage, il veut nous façonner davantage. En Genèse 22, nous connaissons l'histoire d'Abraham, Isaac. Abraham a tant attendu son fils. Il a même pensé, lorsque le fils n'est pas venu, il a même pensé qu'il doit aider Dieu pour faire un fils, pour faire un enfant, avec la servante de sa femme. Donc, lui aussi, il a lutté avec les promesses de Dieu, parce que les promesses de Dieu, il paraissait que la promesse de Dieu tarde, ou bien peut-être Dieu a oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu ne vient pas en retard, il vient au bon moment. Maintenant, il a eu son fils, et en Genèse 22, versets 2 et 3, commençons après verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Oh, J'aime Abraham. Dieu a trouvé un collaborateur fidèle. C'est pour ça qu'on a appelé cet homme ami de Dieu. Il a fait sortir des ténèbres. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il a choisi de mettre sa confiance en Dieu. Et Dieu a fait des choses extraordinaires avec cet homme de la foi. Il dit, me voici, je suis là. Je suis disponible pour toi. Verset 2, Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé entre verset 2 et verset 3. Rien n'est écrit ici. Mais c'est juste écrit, Abraham se leva de bon matin. Je suppose qu'il n'a pas dormi la nuit. Ça, vraiment, ce n'est pas écrit ici, mais je suppose qu'il n'a pas dormi la nuit. Mais il n'a pas non plus discuté avec Dieu pendant 6 semaines pour dire, ah bon, est-ce que Dieu, tu ne peux pas changer ton avis? Non, le lendemain, du bon matin, il se lève. C'est là son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Ici, nous voyons encore, lorsque Dieu veut nous employer, et ça passe toujours à travers sa parole, et notre confiance et notre obéissance. C'est un triangle. La parole, la foi et l'action. Cette collaboration que Dieu veut avec nous, c'est toujours dans ce triangle. Comment exactement? Bon, ça diffère de situation en situation. Avec la multiplication de pain, il a dit, bon, apportez-moi. Donc, il leur a dit quelque chose. Bon, eux, ils ont vu le besoin. Ils ont pensé, bon, Seigneur, fais un miracle. Oui, je vais faire un miracle, mais je vais le faire avec vous. Et, ah bon? Avec le peu que vous avez, apportez le peu que vous avez, je vais le. Et après, le Seigneur l'a multiplié. Le Seigneur fait ses miracles tantôt comme ça et tantôt comme ça. Mais il veut nous parler et il veut nous reparler, il veut nous donner ses instructions pour la situation. C'est vrai, nous pouvons nous baser sur des paroles qu'il nous a données il y a 10 ans, il y a 5 ans, parce que Dieu n'est pas un menteur. Mais pour la situation aujourd'hui, on a encore un besoin d'une parole, de sa direction. On ne peut pas seulement vivre sur le passé, dans la tradition. Il nous faut avoir une relation vivante avec lui aujourd'hui. La foi vivante a besoin aussi des paroles vivantes. Mais nous allons voir des miracles lorsque nous acceptons ce triangle. On dit comme ça en français, triangle? C'est 3 points. La parole, la foi, ta décision de lui croire et ta décision de mettre en pratique sa parole ou bien d'obéir. Le mot obéissance en France, c'est pas. Je fais un peu doucement, c'est pas très bien. Même en Allemagne, ce n'est plus. Il faut camoufler, il faut prendre d'autres mots aujourd'hui pour motiver les gens. Voilà. En Josué 1, vous êtes là encore? En Josué 1, Moïse parle à son serviteur. Non, le Seigneur parle à son serviteur Josué après la mort de Moïse. Il dit, ce livre, donc Josué 1, verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, il faut écouter et mettre en pratique. Et c'est là où on aura du succès. Donc, et c'est important. Je me rappelle encore le jour où on était à Dakar, on avait loué un bâtiment, une maison rez-de-chaussée, pas en étage, pour l'école biblique. À l'époque, on n'avait pas encore implanté des églises, donc c'était pour former des Sénégalais pour la moisson. Donc, et le propriétaire vient et il dit, il vend la maison, il veut vendre la maison et nous avons le droit d'acheter. Et nous sommes les premiers. Et on lui il dit, combien? Bon, à l'époque, c'était 65 000 euros. Bon, c'était en francs CFA, quelques millions, mais c'est... Et ça, c'était déjà 3 ans plus tard, le prix était le double. Maintenant, on a prié, on a dit, mais on n'a jamais. Nous sommes en vie d'un jour à l'autre sur le champ missionnaire avec des dons. On n'a jamais eu une somme de 65 000. On a prié en équipe avec nos Africains. On a prié, il y a eu des paroles, etc. etc. Et il y a un aussi qui a dit, oui, Hachim, je t'ai vu. J'étais dans le bâtiment. On dirait que le bâtiment était en 3e étage. Et là, j'étais en haut et je te voyais passer en bas. Je te saluais. Je t'ai vu en rêve. Je dis, mais bon. Oui. Oui, peut-être tu as mangé un peu trop gras ou je ne sais pas. Voilà. Mais le 30 mars, nous partons à Dakar dans cette maison. Et aujourd'hui, il y a 3 étages. Après 20 ans. Donc, cette maison... Et Dieu a fait un miracle. Donc, le propriétaire a accepté d'attendre une année pour qu'on rassemble l'argent. Et je vous dis, les dernières 6 semaines avant l'échéance de ces 12 mois, ouh, c'était chaud. C'était chaud. Et nous, en tant que Sénégalais, nous, on a juste, on a pu trouver, je pense, à l'époque, c'était 2500 euros. Mais il y a tout le monde. Ils ont contribué. Mais comme on n'était pas très nombreux, le Sénégal est un pays musulman, et les gens qui étaient croyants, c'était très pauvres, on était fiers d'avoir 2500 euros. Nous-mêmes, c'est notre contribution. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à 65 000 euros? Mais je vous dis, à la fin, on a eu le bâtiment. On a eu l'argent, on a eu le bâtiment parce que Dieu, il nous a parlé par différents messages et il nous a donné l'accord de nous engager pour ça. Et à la fin, il était fidèle. Il a pourvu à cela. Je vous donne ça comme encouragement. Je sais pour la maison de Tisserand, vous attendez un peu plus que nous à l'époque. Nous, on avait juste une année. Voilà. Alléluia. Dieu est fidèle. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose, il nous demande aussi notre participation. Et on doit savoir comment, Seigneur, tu veux faire ce miracle. Et pour chaque situation, c'est différent. Donc, il nous faut une parole. Et lorsque nous sommes en équipe, c'est bon de rassembler les paroles que chacun reçoit et on fait une synthèse. On dit, d'accord, Seigneur, on prie ensemble et après, on se décide, nous voulons te faire confiance. Et Seigneur, qu'est-ce que toi, tu nous dis qu'on doit faire? Quelle est notre action qu'on doit faire? C'est même en Matthieu 12, verset 50, nous lisons que... nous lisons que c'est même la condition essentielle pour faire partir de la famille de Dieu. Là, c'est écrit en Matthieu 12, verset 50, c'est écrit « En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Ce n'est pas juste celui qui croit en moi, mais celui qui fait ma volonté. Celui qui passe à l'action. J'aimerais juste dire, je crois à la parole écrite, je crois à la parole prêchée, enseignée, je crois aussi à la parole prophétisée. Lorsque nous cherchons la parole Réma pour une situation, je crois qu'elle doit venir aussi de ces différents côtés. De la parole écrite, révélée pour cette situation, aussi de la parole prêchée, enseignée, et aussi de la parole prophétisée, ou bien par rêve, vision, etc. Je crois qu'on a besoin de tout ça pour recevoir une direction du Seigneur. Mais après, on doit dire, voilà, mais... Souvent dans les paroles, même lorsque tu lis la Bible, presque je n'ai pas trouvé une promesse ici qui n'est pas conditionnée. Toutes les promesses de Dieu sont toujours attachées à une condition. Donc c'est déjà qu'est-ce que nous devons faire de notre côté, quelles conditions nous devons remplir pour que toi, Seigneur, tu réalises ta promesse. J'aimerais parler de ce qui nous bloque parfois, ce qui nous retarde parfois dans ce processus, dans ce que le Seigneur veut faire, ce qui nous parfois nous écarte aussi des miracles. Pourquoi on ne vit parfois, on ne voit pas la réalisation des miracles. C'est vrai, on peut parler de notre indépendance, de notre individualisme. On pense seulement à nous-mêmes, même en tant que croyants parfois. Donc, le péché a plusieurs visages. Et c'est vrai. Mais je ne veux pas trop parler aujourd'hui du péché et de manque de foi, ou bien etc. Je veux parler de notre culture. Notre culture ici en France, qui a été marquée par la culture grecque. Et c'est une culture qui n'est pas... on doit comprendre cela. Elle fait partie un peu de notre héritage, elle fait partie de notre héritage, de notre identité. Mais si nous voulons vivre les miracles du Seigneur, on doit bien gérer cette culture. Et j'aimerais lire en Acte 17, verset 19. Acte 17, verset 19. Paul est à Athènes, la capitale de la Grèce. Et Acte 17, verset 19, et là c'est écrit, alors, ils prirent Paul, le menèrent à l'aréopage et dirent, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Ça, c'était l'habitude des Grecs. Mais c'est devenu un peu notre... On aime écouter. On aime passer du temps pour écouter, même écouter des prophéties, écouter des messages sur Internet, écouter ce que lui dit, ce que les sur les réseaux sociaux, les informations. On aime, et je ne veux pas diaboliser ces choses, mais on aime écouter, on aime recevoir des nouvelles. C'est comme les Grecs. Ils étaient curieux à avoir encore, d'apprendre encore quelque chose de nouveau. Et pour nous, c'est ça ce qui... on est curieux, on est devenu curieux pour recevoir des nouvelles à gauche, à droite, à travers les différents médias, etc. Mais ça ne suffit pas seulement pour écouter. Souvent, on écoute, on dit « Oh, c'est merveilleux !» Lorsque Pierre a reçu une parole, la parole dans la barque, « Viens !» Pierre n'a pas fait une célébration dans la barque. Il n'a pas commencé à danser et dire « Oh, alléluia, le Seigneur m'a parlé !» Il n'a pas parlé à toi, il a parlé à moi, il a parlé à moi seulement. « Oh, alléluia, alléluia !» Souvent, c'est comme ça. On commence même à se vanter. Parfois, on se vante même de nos propres révélations. Et on oublie quand dans la révélation, il y avait un ordre. Il fallait faire quelque chose. Oh, ça, on a oublié. Parce que ça, c'est notre culture, notre culture française, allemande et grecque, qui est marquée. On aime recevoir des nouvelles. Et on pense déjà en recevant la nouvelle, oh, on est déjà enrichi. Mais lorsque Dieu parle, souvent, c'est attaché aussi à un ordre. Le miracle à Pâques, oui, c'était super que Dieu lui a adressé une parole personnelle. Oh, chaque fois quand Dieu me parle d'une manière personnelle, dans ma prière, oh, je suis content, ça, je suis touché. C'est bon, mais souvent, c'est attaché que maintenant, je dois lui faire confiance et faire quelque chose. Et Pierre aussi, et il n'a pas vu le miracle jusqu'au point où il a enlevé son pied et l'a fait sortir de la barque pour le placer sur l'eau. Après, il a enlevé l'autre pied et ça fonctionnait. Il a marché sur l'eau vers Jésus. Donc, il n'a pas seulement écouté. Il a cru, il a passé à l'action. Et c'est important que nous démasquons cette culture grecque qui est un peu derrière notre façon de faire. de notre culture française, européenne. Elle nous bloque pour vivre des plus grands miracles. C'est ça ce que j'aime avec mes frères africains. Eux, ils n'ont pas cet héritage grec. La parole, lorsqu'ils reçoivent la parole rentre ici, directement ici. Mais pour nous, les Allemands, les Français, la parole rentre ici, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et pff, elle ne sort pas là. Il y a un rond-point dedans, elle ne trouve pas pour rentrer ici. Mais la parole, elle porte seulement du fruit lorsqu'elle rentre dans le cœur. Et mes frères africains, bon, je ne veux pas maintenant, je ne veux pas glorifier les Africains. Nous avons des dons, nos différentes nations, nos différentes ethnies, les différents peuples. Nous avons des points forts et aussi des points faibles. Mais j'aime la foi de mes frères africains. C'est une foi. Oh, et c'est pour ça que j'ai vu des miracles. J'ai vu plus de miracles en Afrique. Des aveugles qui voyaient, des possédés libérés, complètement transformés. Alléluia. Et je veux voir ça ici en France. Je suis seul? Disons Amen, Amen. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Lisons encore 2 Timothée. Je suis vers la fin maintenant. Je vais dévoiler la preuve de ton amour pour Jésus. Tout de suite. Tu es prêt? Tu attends, n'est-ce pas? Ah, merci. Merci. Donc, 2 Timothée 4, versets 3 à 5. Là, c'est écrit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Bon, Paul écrivait dans cette situation. Donc Paul était en conflit avec cette culture grecque qui marquait déjà son entourage. Et c'est pour ça qu'il a donné cette parole à Timothée. Fais gaffe, fais attention. Le problème était déjà à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment entré profondément en nous. Mais si nous voulons vivre l'évangile comme au premier jour, on doit se débarrasser de cette culture. Je veux dire aussi, dans la culture, il n'y a pas toute chose qui est mauvaise, mais le côté qui n'est pas bon pour Dieu, qui est malsain, de ça, on doit se débarrasser. Dans notre culture allemande, il y a des choses qu'on ne peut pas, si on veut vivre avec Dieu, on ne peut pas les tolérer. Nous vivons selon le régime de Dieu et pas selon le régime de la France ou bien, premièrement, ou bien de l'Allemagne. Vous êtes d'accord avec? Ici encore, Paul, il dit clairement, fais attention, sois sobre, supporte les souffrances, et il dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton service. Donc, autrement dit, passe à l'action. N'écoute pas seulement, ne prête pas seulement tes oreilles toujours encore à d'autres nouvelles. Qu'est-ce que d'autres prophètes encore disent? Qu'est-ce que d'autres encore disent? Dieu nous a dit beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. Donc, au lieu d'attendre encore d'autres prophéties, faisons d'abord ce qu'il nous a déjà dit de faire. Annoncer sa bonne nouvelle, faire des disciples, faire des œuvres bonnes pour les personnes, pour les nécessiteux. Là, je n'ai pas besoin d'une prophétie extra. C'est juste pour savoir, Seigneur, c'est ce voisin ou bien ce voisin. Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Qui est la prochaine personne? Qu'est-ce que je dois lui dire? Là, j'ai besoin de son inspiration, son aide. Mais le Seigneur nous invite à passer à l'action. Et je veux terminer avec ce passage de Jean 14. Excusez-moi, aujourd'hui, je vous ai bombardé avec des passages bibliques. C'est important. La parole est notre... Vraiment, c'est, le Seigneur, il veut faire quelque chose et il le fait à travers sa parole. Jean 14, versets 18 à 21. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je manifesterai à lui. Alléluia. La preuve de ton amour pour Jésus, c'est que tu gardes et que tu fais ce qu'il te demande de faire. J'aime ma femme. Mais l'amour vit par des actions. Donc, il faut que je prouve que je l'aime. Il y a différents langages d'amour, il y a différentes manières, et ma femme, elle est spéciale. Elle est spéciale. Comme chaque personne est spéciale. Moi aussi, je suis spécial. Mais l'amour seulement par les paroles ne suffit pas. Il faut une action concrète pour que la personne soit rassurée. C'est vrai, il m'aime toujours. C'est vrai, je vois la preuve. Avec Jésus, c'est la même chose. Jésus veut voir que tu l'aimes et la preuve de ton amour pour lui, c'est que tu gardes ses commandements et que tu les appliques, que tu les pratiques, que tu obéis. Amen. Il nous laisse pas orphelins. Il est venu vers nous par son esprit. Ici, c'est je voulais lire plus, mais je veux terminer là. C'est que ici, il parle de la venue du Saint-Esprit, etc. Donc, par son esprit, il est venu. Et nous avons cette communion avec lui, cette intimité avec lui. Il est avec nous. Mais il veut faire des merveilles ensemble avec nous. Il nous parle pour nous donner les instructions. Il veut qu'on lui fasse confiance et qu'on passe à l'action. Et si nous faisons comme ça, nous verrons des miracles dans notre vie personnelle et aussi dans notre entourage, pour notre Église et dans cette situation avec l'Ukraine aussi. Je crois que Dieu va répondre aux prières de son peuple. Je crois à ça. Si c'était d'après moi, j'aurais aimé que la guerre soit finie hier. Dieu n'est pas dans notre poche. Je parle au Seigneur, mais je crois que lorsqu'on peut, lorsque Luc parlait, j'étais rappelé de ces encensoirs d'or dans Apocalypse 7, je pense, c'est écrit qui sont remplis avec les prières des saints. Lorsque tu parlais, que c'est important aussi que une certaine quantité, lorsque les bassins, les bassines dans le ciel, où on recueille toutes les prières des saints, lorsqu'ils sont remplis, sont déversés sur la terre. Donc, il faut que ça soit rempli. Il faut que, et je salue cette initiative de prière pendant le mois Adar. Et je crois que sur toute la planète, il y a des millions de prières qui montent actuellement. Et je crois que nous allons voir un effet. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Comment? Je ne sais pas. Mais je crois que Dieu n'est pas menteur. Il répondra à nos prières. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste levons-nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais juste, prenons ce temps pour nous mettre à sa disposition à nouveau, à la disposition du Seigneur, pour répondre au Seigneur. Seigneur, tu m'as parlé, tu nous as parlé à travers ta parole. Je veux vivre à nouveau tes miracles. Je veux vivre ton intervention dans ma vie, dans ma situation, dans cette situation de la France et de l'Ukraine. Je veux vivre cela. Et Seigneur, je veux à nouveau, je veux entrer dans cette collaboration avec toi. Parole, la confiance et action. Dites-le au Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi. Merci pour ta parole. Je vous encourage de prier, que chacun prie pour soi-même. Au nom de Jésus. Merci Jésus, merci pour ta parole. Merci, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas changé. Tu as fait des miracles extraordinaires hier et tu fais des choses extraordinaires aujourd'hui. Et tu feras encore des choses extraordinaires. Tu es assis sur le trône et tu règnes. Rien n'est impossible à toi. Et nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu fiable. Ce que tu dis, tu le fais. Tu as aussi la puissance de l'accomplir. Et Seigneur, nous faisons confiance. Nous nous décidons à nouveau à faire confiance à ta parole. La parole écrite, ta parole prophétisée, ce que tu nous as dit personnellement, nous te faisons confiance et nous nous soumettons à toi, Seigneur. Et nous voulons te dire, nous voulons aussi passer à l'action. Seigneur, montre-nous les pas à prendre, les actions à entreprendre. Montre-nous ça à nous autant qu'Église et montre cela aussi à moi personnellement, à chacun de nous, au nom de Jésus. Mais Seigneur, nous voulons que tu viennes à nouveau avec une onction fraîche sur nous, une onction de foi et une onction de miracle au milieu de nous, une onction de prière, d'intercession, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je bénis ton Église pour cette initiative de prière, d'intercession. Seigneur, viens avec ton onction et conduis ton Église. Conduis chacun dans la prière, dans sa maison et lorsqu'ils se voient ensemble par visioconférence ou n'importe comment. Mais Seigneur, agis et réponds aux prières de ton peuple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te rappelons à toutes ces prières qui sont montées à travers les réfugiés ukrainiens, à travers les soldats ukrainiens, même à travers les soldats russes qui sont dans les combats. Seigneur, il y a des milliers de personnes qui crient à toi. Et Seigneur, réponds et interviens et que la guerre s'arrête. Que ces puissances de mort et de guerre soient arrêtées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous lions cette puissance de destruction au nom de Jésus.